Le journal Alexandre Michler.
Bonjour. Moutier donne encore un mois à 8 des 9 communes de sa couronne. Un mois pour répondre aux questionnaires auxquels elle n'avait pas souhaité donner suite. La ville annonce par ailleurs ce matin vouloir désormais traiter le dossier de l'école secondaire de manière indépendante de tout le reste. Explication dans un instant. Un marché artisanal du terroir pour remplacer la foire à Valbirse, la foire qui n'avait pas survécu à la pandémie de Covid. C'est donc un marché de printemps qui sera désormais organisé. La première édition aura lieu le 21 mai. Présentation dans ce journal. À l'étranger, la Russie célèbre aujourd'hui sa victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. La traditionnelle parade militaire du 9 mai se tient sur la place Rouge à Moscou. Le président Poutine y a notamment prononcé un discours très attendu ce matin. Un discours qui aura finalement été assez bref, vous l'entendrez. Le soleil fait son retour aujourd'hui, il devrait nous accompagner au moins jusqu'à mercredi. Côté Mercure, il fera de plus en plus chaud, jusqu'à 27 degrés en milieu de semaine. Le conseil municipal de Moutier donne donc une seconde chance au conseil intercommunal du Grand Val. Le 21 mars dernier, les autorités de 8 communes ont refusé de répondre au questionnaire concernant l'avenir des collaborations intercommunales soumises par celle de Moutier. Elles affirmaient ne pas vouloir servir d'alibi ni d'être intégrées dans le processus de négociation avec le canton du Jura. Moutier a ainsi répondu ce matin, Loïc Georgi.
Le conseil municipal regrette la volonté affirmée de remettre en cause les collaborations qui existent entre la cité prévotoise et les villages de sa couronne. Il se dit surtout étonné que ces communes aient eu l'impression qu'on leur forçait la main. Toutefois, les réponses concernant l'avenir des relations intercommunales sont relativement importantes pour Moutier, qui travaille en collaboration avec le canton du Jura pour le dimensionnement de certaines prestations publiques. Ne pouvant pas attendre plus, le conseil municipal a donné un mois supplémentaire pour répondre à ce questionnaire. Passé ce délai, il considérera que les 8 communes du CIGV ne souhaitent poursuivre aucune collaboration. En revanche, les questions liées à l'avenir de l'école secondaire seront traitées indépendamment de tout le reste.
Voilà, et on notera que le conseil municipal de Moutier salue ce matin dans un communiqué tout de même le fait que la commune de Belpraon se soit désolidarisée de cette non-entrée en matière. La foire de Malraix n'a pas survécu à la crise sanitaire. Son succès s'est effiloché au fil des saisons jusqu'à sa disparition. Pour continuer d'animer la commune, la commission Bien Vivre de Valbirse a mis sur pied un projet de marché de printemps. La première édition est agendée au 21 mai entre 9h et 16h. La cour de l'école primaire et les alentours de la salle communale de Malraix accueilleront une trentaine d'exposants de la région. Ils proposeront artisanat et produits du terroir. Sur place, il y aura également des animations pour enfants et la possibilité de se restaurer. Les organisateurs ont fait particulièrement attention à ne pas entrer en compétition avec d'autres manifestation régionale. William Payen est vice-président de la commission Bien Vivre à Valbirse.
Le calendrier, il était relativement complexe. Il fallait que la salle communale soit libre. Il fallait aussi ne pas avoir d'autres événements dans les autres villages autour. Le but n'est pas de rentrer en compétition. Je pense qu'il y a suffisamment de place dans une année complète pour qu'on ait des marchés sur les différents villages sans rentrer dans une compétition. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le printemps. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de foires qui ont lieu de très grande importance à l'automne, que ce soit la foire de Champeau ou la foire de Chindon. Donc le but était vraiment de rester pour le moment sur quelque chose au printemps, dans un endroit où il n'y avait personne d'autre pour ne pas rentrer en compétition.
Avec la volonté d'attirer du public plus loin que Valbirse.
Ah oui, alors la communication elle a été faite sur les réseaux sociaux, donc on espère aussi que ça va sortir de Valbirse. Les affiches ont été présentées dans les communes de la vallée, donc en dehors de Valbirse aussi. Ce n'est pas un événement qui est uniquement pour les habitants de Valbirse, il est pour tous les habitants. Les artisans ne viennent pas forcément que de Valbirse aussi. Donc le but, c'est vraiment d'avoir à Valbirse un point de rassemblement pour le Jura bernois.
On a des propos recueillis par Claire Viget. Les organisateurs souhaitent que cette première édition du marché de printemps de Valbirse soit la première d'une longue série. On connaît désormais les noms des 18 membres du CAF pour la législature 2022-2026. Ils ont été communiqués ce matin par le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne. La séance constitutive aura lieu le 13 juin. C'est à cette date que sera notamment élue la présidence. Vous retrouvez les noms de tous les nouveaux membres du CAF sur rjb.ch. La philosophie n'est pas uniquement réservée aux spécialistes. À Bienne, cette discipline est au cœur d'un événement qui dure une semaine. Les journées philosophiques, elles ont démarré samedi dans la cité célandaise. Adrien Bourdonne est membre du comité d'organisation. Il revient sur la création de cet événement dans une ville qui, pourtant, n'est pas forcément connu pour être un haut lieu de la philosophie.
Tout au départ, c'est une initiative d'un ancien prof de gymnase qui avait envie de faire vivre un peu la philosophie à Bienne. Parce que c'est vrai que Bienne, ce n'est pas une ville universitaire, donc il n'y a pas à la base une chaire de philosophie avec des étudiants et tout ça. Donc c'est aux gens de faire vivre la philosophie un peu hors des murs de l'université. Et puis c'est l'enjeu de base un peu de ces journées, quoi, de faire exister la philosophie dans la ville.
Est-ce que du coup on remarque une différence entre ces villes, comme par exemple Neuchâtel, Lausanne, qui ont des universités, des chaires de philo, par rapport à Bienne qui n'en a pas ?
Je trouve que c'est d'autant plus ouvert. Et puis on sent une espèce de liberté dans la manière dont on philosophe. Il y a eu déjà une conférence donc, ce samedi. Et puis on sent que les gens ont soif de savoir, ont des questions, se posent des questions. Enfin, on sent qu'il y a une espèce de liberté, puis d'effervescence, puis de spontanéité qui n'est peut-être pas là dans les endroits qui sont très universitaires, où il y a une espèce de tradition, les choses sont un peu plus peut-être cadrées. Enfin, il y a une espèce d'énergie et une envie de philosophie qui est particulière, je crois.
Un des propos recueillis par Anthony Montandon ce matin dans la matinale. Retrouvez l'interview complète d'Adrien Bordone ainsi que toutes les informations sur ces journées philosophiques de Bienne sur rjb.ch. Que sera la contribution du photovoltaïque au futur approvisionnement électrique de la Suisse ? Greenpeace l'espère plus importante que les objectifs fixés par le Conseil fédéral. L'association active dans la défense de l'environnement a mené une action ce matin à Berne. Une banderole géante représentant un soleil a été posée sur la place fédérale. Le but de cet acte est de sensibiliser la commission de l'environnement du Conseil des États qui se réunit demain. Ses membres vont débattre du projet de loi fédérale relative à un approvisionnement sûr en électricité reposant sur des énergies renouvelables. Alors pourquoi ces objectifs sont contestés ? Le porte-parole de Greenpeace, Matthias Schlegel.
Ces objectifs ne permettent pas de respecter le budget carbone qui reste à la Suisse. Et donc il faut aujourd'hui très rapidement réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre du système énergétique suisse de manière à ce que la Suisse puisse réaliser ses objectifs climatiques. Et puis ce qu'on voit aussi, ce que la guerre en Ukraine illustre aujourd'hui très particulièrement, c'est que la dépendance par rapport aux énergies fossiles est aussi extrêmement dangereuse du point de vue des libertés, des droits de l'homme et de la paix.
Donc en deux mots, il s'agit de trouver le financement pour recouvrir tous les toits de Suisse de panneaux solaires.
Pas tous les toits forcément, mais suffisamment pour que l'énergie solaire devienne la principale énergie dans l'approvisionnement énergétique du futur de la Suisse. Aujourd'hui en Suisse, on dépense l'équivalent de 8 millions de francs suisses pour importer des énergies fossiles de Russie, juste de Russie, par jour. Et si on dépensait l'équivalent en investissant dans les énergies renouvelables, on arriverait à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans notre scénario énergétique.
Le propos recueilli par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. L'inflation pèse aussi sur les fournisseurs horlogers. Certains anticipent une détérioration de leurs marges pour cette année. En cause, une hausse des prix des matières premières qui ont augmenté de 10 à 20% selon les alliages. Actuellement, le secteur horloger suisse ne souffre pas de rupture d'approvisionnement, mais d'un allongement régulier des délais de livraison. Les visiteurs étrangers ont boosté l'hôtellerie suisse au mois de mars. 3 millions de nuitées ont été enregistrées selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique publiés ce matin. Ça correspond à une hausse de 60% par rapport à la même période l'an dernier. Les visiteurs étrangers ont représenté 1,2 million de nuitées, soit un nombre triplé en un an. Pierre-Alain Fridé est de retour. Le conseiller national socialiste jurassien a pu se rendre compte des besoins des réfugiés ukrainiens. Il est rentré samedi d'un voyage de 5 jours en Ukraine, en Slovaquie et en Roumanie. On l'évoquait la semaine dernière. L'élu est allé dans ces pays pour le compte du Conseil de l'Europe où il représente la commission des migrations. Le but du voyage était humanitaire avec notamment le recensement des besoins des populations déplacées en raison de la guerre en Ukraine. Et ils sont nombreux. Pierre-Alain Fridé.
On était à Oujgorod, il y a 100 000 habitants d'habitude, tout d'un coup il y a 500 000 personnes. Donc il faut de quoi les nourrir, de quoi les loger, il faut augmenter les moyens des hôpitaux, de toutes les structures. Et c'est vraiment un défi très important qui nécessite beaucoup de moyens.
On parle beaucoup d'aspects matériels, le soutien psychologique, il est important, capital aussi.
Alors il est essentiel surtout pour les enfants. En Slovaquie, dans un camp, on a vu des dessins faits par des enfants. C'était vraiment horrible, c'était noir, c'était brun, on voyait des arbres sans feuilles. Donc là, ces enfants ont besoin d'un soutien, de pouvoir exprimer ce qu'ils ont vu, vécu, c'est déterminant.
Vous parlez de cette misère, cette tristesse continue, vous la constatez de jour en jour quand vous êtes sur place?
Alors c'est très variable. variable d'un endroit à l'autre. Le pire, c'est d'aller dans des gymnases où vous avez des lits alignés, vous avez des enfants qui tentent de jouer dans un coin, vous avez des mines défaites des parents, vous ressentez l'angoisse. Et dès que les sirènes se mettent à retentir, les gens ne sont pas bien.
Votre mission, Pierre-Alain Fridé, c'était de recenser les besoins de ces réfugiés pour le compte du Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que vous allez faire désormais de vos observations?
Donc, c'est un rapport urgent. Dans 3 semaines environ, on va déposer un rapport avec des recommandations pour demander en fait à l'ensemble des pays de prendre des mesures concrètes pour aider les gens, parce qu'il y a la guerre maintenant, maintenant il y a une grande solidarité, mais il faudra rester vigilant et apporter un soutien sur le long terme. On va solliciter les pays pour bien leur montrer les défis et faire en sorte que ces pays prennent les mesures adéquates. Je crois que l'Ukraine a besoin d'armes. La Suisse ne va pas en livrer pour les raisons que vous savez, mais elle a aussi besoin de permettre à son peuple de résister et de survivre.
Voilà, Pierre-Alain Fridé qui répondait à Michel Léoni. Et en Russie, le pays célèbre en grande pompe aujourd'hui sa victoire sur l'Allemagne nazie. La traditionnelle parade militaire du 9 mai se tient donc aujourd'hui sur la place Rouge à Moscou. Lors de son discours très attendu, le président russe Vladimir Poutine a proclamé que l'armée du Kremlin combattait en Ukraine pour défendre la patrie. Marceline Michon.
La prise de parole de Vladimir Poutine était particulièrement attendue. Son discours s'est finalement révélé assez bref. Le président russe a déclaré que Moscou se défend face à la menace inacceptable que représente son voisin, soutenu par l'Occident. « Je m'adresse à nos forces armées, vous vous battez pour la patrie, pour son avenir », a exprimé Vladimir Poutine aux milliers de soldats qui participaient au défilé. Le chef du Kremlin a répété que la Russie avait agi en réponse à la préparation d'une attaque ukrainienne contre des séparatistes pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Il a qualifié son offensive, je cite, de « riposte préventive » et accusé une nouvelle fois son voisin de néonazisme. « Tout doit être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre globale », voilà ce qu'a encore ajouté Vladimir Poutine.
Merci Marceline. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté déclaré que l'Ukraine ne laissera pas la Russie s'approprier la victoire sur le nazisme. Pékin serre encore la vis pour lutter contre le rebond de la pandémie. Des millions d'habitants travaillent depuis aujourd'hui à domicile. De nombreux lieux publics ont été fermés la semaine dernière, donnant à la capitale chinoise des allures de ville fantôme. La Chine qui est confrontée depuis 2 mois à sa pire vague épidémique depuis la flambée initiale du début 2020. Et la situation sanitaire en Chine, ajoutée à la guerre en Ukraine, pèse sur les marchés financiers. Les inquiétudes gagnent également les investisseurs friands de crypto-actifs. Le Bitcoin est tombé ce matin à son plus bas niveau depuis mi-janvier, se maintenant pour le moment au-dessus de la barre des 33 000 dollars. Enfin, sachez pour terminer que Taïwan a tremblé ce matin. Un séisme de magnitude 6,1 s'est produit aujourd'hui au large des côtes du petit état insulaire. Il a fait vaciller les bâtiments de la capitale Taipei, mais aucun dégât n'a été constaté dans l'immédiat.
Vous écoutez RJB, il est midi 28.
Sport. Un nouveau gardien au HC Bienne. Le club de hockey sur glace finlandais annonce ce matin l'engagement du Finlandais Juho Olkinuora pour la prochaine saison de National League. Le joueur de 31 ans sort de 3 saisons en KHL, dont 2 avec le club russe de Metallurg Magnitogorsk. Juho Olkinuora a été sacré champion du monde en 2019 et médaillé d'or avec la Finlande aux derniers Jeux Olympiques. Voilà, j'espère qu'il sera plus facile pour lui d'arrêter des pucks que pour moi de prononcer son prénom. Allez, sur ces bonnes paroles, c'est la fin de ce journal. Il est 12h29 sur RJB. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de votre fidélité et excellent après-midi.